RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Mes chers grandes gueules, c'est reparti pour une heure de discussion ensemble avec vous au 32-16 sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Tiens, tout à l'heure, vous savez ce que c'est la plante ton slip à Nantes, cette opération? Oui, plante ton slip à Nantes. Ça existe.
Encore une belle opération.
Oui, c'est une belle opération. Ça consiste à enterrer ses sous-vêtements pour analyser les sols. Ouais. En fait, c'est au service de la biodiversité.
Oui.
Alors, ne riez pas parce que c'est avec notre argent et notamment celui de l'Agence de la transition écologique. C'est organisé chaque année à Nantes.
Alors. On va en parler tout à l'heure. Moi, je veux les noms des responsables.
Oui. Bah, la maire de Nantes, Alain Roland.
Je veux les noms des responsables. J'ordonne leur mise à pied immédiate. Et leur incarcération immédiate pour une durée indéterminée, ainsi que la saisie de tous leurs biens.
Voilà. Donc, en tout cas, plante ton slip. On va en parler tout à l'heure, parce que je sens que ça va vous faire réagir au 32-16. Ça sera juste avant 11h. Et puis, n'oubliez pas qu'à 11h, c'est le ministre. Alors, on ne le connaît pas vraiment. Hein, c'est Édouard Geffray, parce qu'il ne vient pas de la politique. C'est plutôt un technocrate qui était au sein de l'administration, l'éducation nationale, qui est devenu ministre, ministre de l'éducation nationale, Édouard Geffray, et qui veut remettre de l'exigence. Donc demander aux élèves par exemple de faire un effort en orthographe, en grammaire. Est-ce que vous avez raison? Est-ce qu'il faut le retour de l'exigence à l'école? Ça sera l'un des sujets évoqués avec Édouard Geffray face au GG. Édouard Philippe n'est jamais venu dans les grandes gueules, ça serait bien qu'il vienne d'ailleurs.
Ouais. Mais
comme ça on fera une série sur tous les Édouards.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'il est encore en vie?
Édouard Philippe?
Moi je n'ai pas eu de preuve de vie depuis maintenant
3 jours,
plusieurs semaines. Donc,
Alors il y a aussi Édouard aux mains d'argent et ça c'est plutôt l'État.
Vu alors que... moi par contre je veux bien être là pour Édouard aux mains d'argent.
Oui, bah, vu ce que nous prend l'État, c'est le mise et budget qui est, c'est Édouard aux mains d'argent. Parce que vous allez voir, la pression fiscale sur les salaires n'a jamais été aussi forte en France.
Oh mais quelle transition!
La France est sur le podium des pays de l'OCDE en matière de pression fiscale sur les salaires. 52%, c'est quoi ce chiffre? En fait, sur 100 euros que votre employeur vous donne, vous salarié, eh bien seulement 52% va dans votre poche parce que le reste part en impôts et en cotisations. Sachant qu'ensuite, sur les 52, on en prélève encore. Bref, on est l'un des pays les plus endettés, mais aussi les plus fiscalisés concernant le salaire. Et la tendance est à la hausse, c'est ce que disent les études. Donc, il y a un problème parce que il y a d'autres pays où ça marche différemment. J'ai regardé dans l'OCDE, hein, je prends les pays de l'OCDE, des pays qui sont sous la moyenne, où il y a moins de pression fiscale, notamment en Suisse, aux États-Unis, en Australie, au Canada. C'est des pays où on prélève guère plus 30% sur votre salaire. Alors, est-ce que ça vous insupporte? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en même temps, derrière, on a un modèle social à financer. Oui. Le 32-16, Laura.
Oui, bah, j'ai envie de rappeler Madame Ridel, moi, et lui dire, ah bon, les Françaises n'ont pas envie... n'ont pas envie de moins de taxes, parce que sur les 52, allez, on fait entre la TVA à 10 et la TVA à 20, on va trancher. Vous avez encore 15% qui disparaît pour la TVA. Plus, quand vous payez, vous allez à la pompe. Donc, en fait, il vous reste pas 52,80. Si vous reste 40 balles, c'est le max. Donc, vous travaillez plus pour les taxes, pour votre propre personne. Et c'est ça qui est grave. Et encore une fois, quand on apprend, enfin, quand on sait qu'il y a que la moitié des gens qui payent des impôts, je trouve ça une manière inadmissible.
Ah, pas des impôts, l'impôt sur le revenu.
L'impôt sur le revenu.
C'est même plus de la moitié, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu.
Moi, je trouve ça insupportable, même si tu ne peux payer que 1 euro, bah, tu profites comme tout le monde de l'espace public, donc tu payes. Quand on apprend qu'un actif sur 5, c'est un fonctionnaire pour voir l'état de nos services publics, bah, on a quand même le droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et encore une fois, on ne se pose pas la question, on réfléchit, allez, encore de la taxe, on étouffe encore plus. Moi, ce que je vois, c'est que les narcotrafiquants sont en train de générer des moyens avec l'IA de trafiquer encore plus. Quand nous, on en a encore à l'heure du formulaire A pour aller chez le bureau B, pour aller par le bureau C. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me dire, mais comment des gens que je paye une fortune arrivent à faire autant de merde avec autant d'argent?
Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis des années, les responsables politiques nous disent qu'il y a un problème avec le coût du travail. Hein. Et en fait, chaque année, il y a de plus en plus de pression fiscale sur le travail. On fait l'inverse, en fait, de ce qu'on dénonce, Charles.
Moi, en tout cas, moi, quand je vois ce que l'État me prend, j'ai l'impression d'être Solzhenitsyn. J'ai l'impression d'être un citoyen soviétique que le système essaye de rendre fou. Et ils sont en train d'y arriver. Il y a certains moments où, honnêtement, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert de travailler en France si dès que vous faites un petit effort de plus, dès que vous essayez de, dans mon cas, d'avoir plus de clients, de faire tourner un cabinet, etc., l'État vous prend le différentiel, en fait. L'État vous bouffe votre effort avec une rigueur implacable, parce que n'essayez pas de finasser. Le système vous roule dessus. S'il peut prendre d'ailleurs plus que ce qu'il a le droit de prendre, de toute façon, c'est même pas clair. On sait même pas comment c'est calculé. Je veux dire, l'URSSAF, c'est devenu un monstre hors de contrôle. On sait pas,
je comprends pas.
C'est un truc complètement opaque.
Plus ça va et plus ma déclaration, c'est
un labyrinthe.
C'est
des taux complètement arbitraires. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est de donner des autorisations de prélèvement sur vos comptes, parce que si vous le faites pas et que vous faites la démarche de payer vous-même, vous payez en retard, donc vous êtes majoré, donc vous êtes d'autant plus anéanti par ce système. Donc, ça décourage très profondément l'effort, je trouve.
Ça décourage le travail.
Et ça décourage le travail, ça démobilise, ça déprime, pour dire les choses comme elles sont. Moi, ça me déprime, ça me mine.
Carrément.
Ça me mine, oui. Mais franchement, oui, parce que je me dis, mais à quoi ça sert que je travaille? Je ne suis même plus propriétaire de mon argent. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en France, on arrive à un niveau où c'est l'État qui est propriétaire de votre argent. C'est pas votre argent.
Bah, à la base,
c'est l'argent
l'État
de l'État.
Et
vous en laissez le contraire. On en est là. Comme dans les systèmes soviétiques. Et donc, moi, je pense que c'est un système fou qu'il faut changer, ou alors il faut se barrer. Mais bon, il faut qu'il y ait une solution. Et par ailleurs, j'aimerais, et je pense que c'est une révolution à faire aussi en France, qu'on ait la même rigueur dans la dépense que dans la collecte. Je rêve d'un État qui soit aussi sourcilleux quand il sort un centime d'argent public que quand il va le chercher dans les poches des Français.
Pour un pont qui n'est pas adapté à la chaleur.
Et ça, je trouve que c'est une révolution culturelle à faire dans notre pays. L'échéance de 2027 peut être l'occasion de le faire. Je trouve qu'on devrait changer complètement de braquet et remettre l'État au service des gens, alors que maintenant, les gens ne sont même pas au service de l'État, ils en sont les esclaves.
Joël Dagosséry.
Moi, ce que je vois, c'est qu'on en est à la 158 millième déclaration de ce type, enfin, étude de ce type, calcul de ce type. Donc là, aujourd'hui, personne ne découvre plus rien. Il n'y a plus aucun Français qui n'est pas au courant que plus de la moitié de ses efforts sont détenus par l'État. Mais malgré ça, vois-tu, les Français, quand tu regardes les dernières élections, pour qui ils votent en masse? Pour des gens qui ne te promettent pas, en fait, de remettre tout ça en cause, ou alors très très peu.
Emmanuel
à
Macron, il avait dit que le travail était un problème, qu'il fallait remettre
en cause. Non, mais 2017. Oui, non, mais je te parle, moi, des dernières.
C'est le président qu'on a depuis 10 ans.
Oui, c'est vrai, mais aux législatives, tu vois les blocs qui sont arrivés en tête. Tu vois bien que c'est pas quelque chose qui va te renverser la table. D'ailleurs, tu viens d'entendre Chloé Ridel, qui vient de te dire qu'elle allait encore en mettre une nouvelle couche. Donc voilà.
Le PS, heureusement, est loin de.
Le PS,
ils ont déjà au pouvoir dans les faits.
C'est ce que j'allais dire. Attention, on parle pas des votes parce que.
Le PS, ça fait un
64. C'est le plus grand lobby.
Les fonctionnaires, ils tiennent Bercy pour des comptes.
Quand t'as vu comment ils viennent de faire plier
public, le Conseil d'État, ils tiennent
encore
le PS.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas juste une fracture entre les élites, qui seraient effectivement plutôt des élites de gauche,
les élites,
et un peuple qui en a marre de ça, et qui travaille dans le privé notamment, et
si
qui en a marre
tient, d'être
toute si une ça, grande partie du peuple en tout cas.
Si ça tient partie, autant, cas, c'est parce que les études ont montré que plus de la moitié des Français sont bénéficiaires de ce système. Donc tu penses bien que si tu es bénéficiaire de ça,
c'est vrai
tu
aussi.
Vas pas venir le matin dire tu donc je vais appuyer sur le bouton rouge pour que ça saute. Non. Oui. Donc
celui qui paye pas l'impôt sur le revenu, il va pas se battre pour payer, c'est sûr.
Oui, donc moi ce qui m'intéresse c'est de regarder dans les candidats qui remet en cause. Moi je vois que David Lisnard qui remet en cause ce truc là. Bah oui, et c'est la vérité.
Notre Ronald Reagan.
Parce que sur la vingtaine de candidats, aucun qui va te foutre ça en l'air.
Je voudrais qu'on donne la parole à Gérald. Bonjour.
Oui, bonjour.
Il nous appelle de Montpellier. Il est dégoûté, Gérald, c'est ça?
Ouais, je suis dégoûté rien que par le bonjour que je vous ai dit, parce que j'étais en train de regarder mes fiches de paye, là.
Alors, regardez, dites-nous ce que vous regardez.
Et taxez le bonjour.
Non, mais c'est une catastrophe. Vous voyez, par exemple, j'ai deux sous, là. J'ai une fiche de paye qui est à 3 402 euros, tu vois. Et bon, mon salaire net, 2094.
Attendez, vous passez de combien, dites-moi?
Je n'arrive pas à saisir pourquoi. 3 402 euros.
D'accord, 3 400, d'accord.
Voilà, avec 190 euros, donc 190 euros d'avantage en nature parce que j'ai la voiture de fonction. Ah,
d'accord. Donc ça fait 3 600, on va dire.
À 2 094,76 euros après impôt.
Donc vous partez de 3 600 à 2 080.
Mais bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais bien sûr.
Et ensuite, sur ces 2 080, vous allez repayer des impôts.
Oui, de la TVA, la taxe.
Non, écoutez, ça fait 3 400 et des bouettes. Après 2 302,35 euros hors impôts, et après les impôts, 2 094.
D'accord.
Mais oui, mais vous payez des impôts, Gérard, quand vous allez au supermarché.
Après les impôts.
Ah oui, vous payez la TVA.
Et après, vous voyez, quand je paye mes impôts, je n'ai pas le régalien qui suit derrière, et on me demande toujours d'en payer plus.
D'accord, mais vous allez en payer encore avec la TVA. La TVA,
Ce que je dis, vous imaginez ça. En fait, les gens.
Moi, je comprends pas, vous pouvez pas
comment ils font pour vivre, parce qu'en fait, ça leur coûte de l'argent d'aller travailler, rien que ne serait-ce qu'aujourd'hui.
Oui, mais vous avez ce qu'a dit Charles? Pourquoi il n'y a pas une révolution?
Moi, je comprends pas pourquoi les gens se révoltent pas.
En fait, les gens aujourd'hui qui sont totalement aseptisés par notre gouvernement, et qui nous pompent, mais jusqu'à la moelle, et personne ne bouge. Il y a eu un moment où il y avait les gilets jaunes. Bon, on a vu un petit peu la manière dont ça s'est passé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne veut bouger. Et je pense qu'en fait, il faut le chaos dans ce pays. Tant que les gens ne se seront pas fait braquer, en fait, leur chariot à la sortie d'un supermarché, rien ne bougera. Et honnêtement, ça me rend fou furieux de payer ça. Et alors que t'as des autres, des mecs qui ne font rien de leur journée et qui gagnent tout en plus que moi.
Mais alors, ces gens-là n'ont pas intérêt à faire la révolution.
On n'est même pas dans les gens qui font rien de leur journée. Moi, je discutais avec une amie hier qui m'expliquait, les discussions à la salle de pause, donc avec des gens qui sont assez jeunes, hein, dans les 35-37 ans. Donc les discussions, c'est quoi? C'est, ah ben oui, ben, si je pars à la retraite, là j'en ai encore pour 20 ans, 25 ans, oui, si je fais ça, j'aurai ça à la retraite, etc. Enfin, vous voyez bien qu'on est sur des gens qui travaillent quand même, mais qui sont déjà en train de calculer s'ils partent à la retraite, combien ils vont avoir, puis combien de temps il leur reste à travailler.
Les gens sont biberonnés au social.
Donc, vous imaginez que ces gens-là, si on leur dit attention, on bouge un truc, ben non, c'est tout le calcul qui est remis en cause, vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que les gens ne bougent pas, c'est que ils sont anesthésiés par l'argent public.
Et il y a une injustice sociale aussi dans notre pays. Vous la regardez, en fait, par rapport, en fait, des personnes qui ne travaillent pas, qui sont RSA ou qui ont des enfants avec mère isolée, etc., et qui ont des aides des APL, mais aujourd'hui, ils vont gagner beaucoup plus qu'en fait qu'une personne qui va bosser au SMIC, qui va se lever le matin, qui va galérer, qui va peut-être avoir un 13e mois par chance. L'injustice, elle est là. Donc les gens, ils en ont marre aussi de payer, en fait, pour les cas sociaux de notre pays, qui nous font rien, parce que si demain vous réduisez, vous reformez, en fait, réformez, ben, cette injustice sociale, ben, c'est ces gens qui...
En fait, le problème, Gérald, c'est les aides sociales à vie.
Nous, les travailleurs, on n'a pas le temps d'aller dans la rue. On doit payer des loyers, on doit payer nos voitures, on doit payer plein de choses, et c'est une catastrophe. Et en fait, j'en ai marre de payer pour les autres, à cause de ça, quand je regarde rien qu'en fait la ligne de la sécurité sociale, j'ai 500 balles que mon patron, il paye, quoi. Merde.
Ouais, mais regardez Gérald, en fait ce qui se passe, c'est que les gens sont biberonnés aux aides sociales depuis qu'ils sont tout petits. Et moi par exemple, je suis contre. Il y a des gens qui ont un modèle économique familial d'aide sociale. Il y a des gens qui vont bénéficier d'aide sociale à vie. Moi je suis contre l'aide sociale à vie, tout comme le logement social à vie. Ça doit être un coup de main, une béquille, quelque chose qui t'aide.
À un moment donné où
tu ne peux pas, tu tombes gravement malade, tu divorces, ton conjoint décède. Il y a plein de choses dans la vie moi je suis très heureux d'être dans un pays qui peut aider les gens comme ça. Mais à un moment donné, c'est censé être une transition. Alors, quand je vois des enfants qui héritent du logement social de leurs parents, mais on va où?
Alors merci Gérald, merci d'avoir appelé au 32-16. Il y a Giuseppe qui est avec nous également du côté de la Savoie, à Montémont précisément. Bonjour
Giuseppe. Bonjour.
Alors est-ce que vous êtes aussi remonté que notre ami là que nous venons d'avoir au 32-16?
Oui, complètement. Mais après, je vais juste faire une parenthèse parce que je pense le côté social, aide sociale, moi je suis pas contre le fait de pouvoir aider si nos impôts étaient utilisés à bon escient sur les seuls aspects sociaux. Ça me dérangerait pas. Le problème, c'est que c'est pas bien exploité. Notre système social, il est bon dans la théorie, mais dans l'application, pour me frotter à Pôle emploi, à France Temps de Travail en ce moment pour chercher un salarié. Bah, on paye des impôts pour avoir ce service, par exemple. Et la personne qui m'a aidé à faire l'annonce, elle a fait son travail. Mais ça m'a rapporté des profits qui correspondent pas tout à fait à ce que je recherche.
Vous êtes dans l'hôtellerie restauration, c'est ça.
Donc je me suis permis de rédiger l'annonce. Oui. Et finalement, là, j'ai des candidatures plus ou moins qui correspondent. Pourquoi ? Parce que la première annonce, ça m'a fait venir des gens avec beaucoup d'expérience, qui ont des prétentions, et ce que je comprends, parce qu'ils ont forgé leur expérience, c'est des saisonniers réguliers, c'est des mecs, des meufs qui travaillent tout le temps dans les cuisines, donc ils ont des exigences, et moi, je peux pas me permettre, à ce stade, j'ai repris l'activité au mois de novembre, je peux pas me permettre de payer quelqu'un comme ça. Donc, ces personnes-là vont devoir soit se retourner, soit rester au chômage, parce que moi, pour pas payer trop d'impôts, il va falloir que je prenne quelqu'un qui soit un peu moins expérimenté, qui a un peu du jet, un peu l'agnac et tout ça, que je finisse, que je forme sur le tas, pour payer un peu moins cher, mais pour qu'il me donne un coup de main et l'aider à faire évoluer. Parce que je ne peux pas me permettre de payer plus, parce que son salaire va me coûter le double à chaque fois.
Oui, mais alors dans ce cas-là, vous n'arriverez jamais à recruter, parce qu'on a quand même coutume de dire que dans l'hôtellerie restauration, on n'est pas assez bien payé. Et vous avez du mal à recruter.
Mais non, bien sûr que dans l'hôtellerie restauration, on n'est pas assez bien payé. Mais moi, pour le moment, là, tout de suite, là, je viens de...
Vous avez surtout un problème avec votre téléphone.
C'est Bercy qui compte.
Bon, Giuseppe, on a compris en tout cas ce que vous nous dites. Il y a aussi des problèmes de salaire. C'est-à-dire que l'employeur, il est donc obligé de sortir quand même un chiffre important pour, une bonne partie part dans l'impôt. Et donc, il ne recrute pas parce que ça coûte trop cher aussi.
C'est un frein à l'ambition. Là, Giuseppe, il a repris. Donc, déjà, c'est un fou parce qu'il s'est dit, tiens, je vais faire de l'entrepreneuriat. Moi, je vais reprendre une boîte, etc. Donc, il a déjà fait cette dinguerie. Ensuite, il se dit, tiens, j'engagerai bien quelqu'un d'expérimenté, mais ah oui, ça coûte trop cher. Donc, tu vois, l'ambition qu'il a, c'est freiné. Donc, il faut qu'il prenne quelqu'un de moins expérimenté. Mais tu vois comment ça nous tire vers le bas, ce truc-là. Et ils l'entendent pas parce que ce qu'ils veulent, c'est la prochaine élection. Parce qu'il y a des gens, qui sont d'accord avec ce système-là. Il faut le dire. Il faut pas dire que tous les Français en ont marre. Non, il y a des gens qui sont OK. Pour que, au lieu de toucher 3004 comme l'auditeur précédent, ils touchent 2080 et ils sont OK parce qu'ils vont aller voter pour LFI ou le RN. Parce que ça, ils sont d'accord avec ça. Donc ça, il faut le dire, il y a des Français qui sont d'accord. Voilà.
Et les Français sont d'accord. Il y a des Français qui sont d'accord, on l'a compris, Joël.
Oui, oui, non, mais parce que
je crois que c'est le message.
Non,
mais on pense toujours
le message est passé.
Les Français veulent plus. Non, mais je te taquine.
Merci Joël. Tiens, on va continuer dans un instant à évoquer le travail avec ces plaintes qui ont été déposées par des associations contre Deliveroo et Uber pour traite d'êtres humains. Ces associations de livreurs à vélo dénoncent un système qui repose sur la précarité organisée de la main-d'œuvre. Ce sont donc les livreurs eux-mêmes qui se plaignent de leurs conditions de travail. Est-ce que finalement c'est de la traite humaine aujourd'hui, la livraison, notamment la livraison à vélo? Ou alors c'est pas le problème de la livraison à vélo, c'est parce que le problème c'est qu'ils sont pas assez bien payés, pas assez bien traités. On en parle ensemble. Tiens, vous êtes concernés, vous êtes livreur à vélo, appelez-nous 3216. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Grande gueule sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Laura Varto-Martinez, Charles Consigny, Joël Dagosséry, le ministre de l'Éducation nationale. Tenez-vous bien, mes chers grandes gueules, sera face à vous dans 35 minutes maintenant. Il a envie, le ministre, de remettre un peu d'exigence, notamment en matière de grammaire et d'orthographe à l'école, peut-être de rendre le bac et le brevet des collèges plus durs. On reviendra avec lui également sur la sécurité des profs alors qu'il y a ce procès en ce moment du meurtrier de l'enseignante espagnole qui avait été poignardée, Agnès Lassalle. Vous vous souvenez cette image très émouvante de son compagnon qui dansait seul devant le cercueil de son amoureuse poignardée. C'est une image qui avait frappé les Français et l'histoire avait beaucoup choqué. Et bien, le procès est en ce moment. Mais la question est de savoir, est-ce que prof, c'est un métier dangereux? Est-ce qu'on est vraiment protégé lorsqu'on est prof? Bref, il y a quand même beaucoup de questions avec le ministre tout à l'heure à 11h et bien sûr avec vous au 32-16. Et puis n'oubliez pas l'événement sur RMC, c'est les places. Ce sont les places que vous pouvez remporter pour le match de Ligue des Champions, la demi-finale PSG-Bayern de Munich mardi prochain à 21h au Parc des Princes. L'expérience RMC, c'est pas seulement le match. Avant, vous venez assister aux émissions, vous allez ensuite au Parc des Princes pour regarder la rencontre, et puis ensuite vous revenez à RMC pour assister notamment à l'afterfoot pour le débrief du match en direct. Pour participer, dès que vous entendrez ceci, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16. Vos places sont pour vous, soyez très attentifs. On va parler maintenant des conditions de travail pour les livreurs à vélo. Est-ce que ce sont finalement les nouveaux esclaves des temps modernes, ces livreurs à vélo? En tout cas, 4 associations d'entraide aux livreurs, notamment les maisons des coursiers de Paris et de Bordeaux, ont décidé de porter plainte auprès du parquet de Paris. Ça s'est passé hier contre Deliveroo et Uber pour traite d'êtres humains. Il s'agit d'une procédure assez inédite. Dans cette procédure, elle dénonce le modèle économique des plateformes qui reposent sur l'exploitation d'une manœuvre précaire et bon marché avec des conditions de travail et des revenus indignes. D'ailleurs, dans un rapport publié fin mars, Médecins du Monde avait dénoncé des conditions de travail compliquées de ces livreurs à vélo ainsi que des conséquences sur leur santé. Alors faut-il effectivement accompagner ces plaintes, attaquer ces plateformes, et puis finalement, est-ce que livreur à vélo c'est être esclave, ou est-ce que c'est pas un nouveau service, il faut peut-être mieux le payer, mais est-ce qu'il faut tout remettre en cause? Le 32-16 pour intervenir, si vous êtes livreur à vélo, n'hésitez pas à nous appeler. Laura Varton-Martinez, tu fais appel à ces services?
Oui, et je laisse systématiquement un pourboire parce que j'estime que le service que je paye est pas suffisant, enfin c'est pas assez valorisé. C'est un nouveau métier et qui doit être valorisé. Je suis désolée.
Tu ne veux pas supprimer ce métier, mais
non,
tu veux le valoriser.
Non,
il ne
faut pas supprimer, parce que ça pourrait être, par exemple, tout à fait un job étudiant, un complément de revenus, ce n'est pas quelque chose. Mais c'est là ce qui me choque, c'est qu'on voit, des jeunes qui font garçon de café ou dame de café en heures supplémentaires, qui vont faire barman, qui vont faire même livreur de grosses boîtes, style Amazon, DHL et tout, qui font ça. En revanche, on voit pas de... Enfin, moi, je vois très peu de jeunes gens français qui font ça. Donc oui, il y a un problème.
C'est de l'exploitation.
C'est complètement...
Oui, mais enfin, en même temps, si toi, tu fais appel à ce service, c'est parce que justement, c'est pas très cher.
Donc, c'est... Oui, mais moi, je rajoute en moyenne 3 euros de pourboire.
Oui, donc tu es prêt à payer plus cher.
Mais si j'ai la flemme de bouger mes fesses pour aller au restaurant du coin ou d'aller au drive d'un truc, c'est un luxe. Donc je dois payer ce service, ça me pose aucun problème de le payer mieux pour que les conditions de travail soient améliorées.
Charles, tu fais appel à ces services?
Oui, bien sûr. Je laisse aussi un pourboire comme
vous
Laura.
Êtes vraiment vertueux.
Pas toujours aussi généreux que celui de Laura, mais j'en laisse un quand même. Bon, ce qui pend au nez de ces boîtes, c'est que tous ces contrats soient requalifiés en contrats de travail. Et que Uber et Deliveroo soient obligés de salarier ses employés.
Ce qui remettra en cause leur modèle.
Ce qui remettra sans doute en cause leur modèle. Pourquoi? Parce que le salariat en France est devenu un truc inatteignable. Si on avait un salariat normal, avec un temps de travail correct et des charges supportables, on pourrait salarier les gens dans beaucoup plus de secteurs. Le problème, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'entreprises qui maintenant essayent de contourner le salariat? C'est parce que à cause de toutes ces mesures de gauche, il est devenu inatteignable aujourd'hui le salariat en France. Donc moi, je diabolise pas ces plateformes. Je pense que par ailleurs, les chauffeurs qui font ça, les gens qui font ça ne le font pas toute leur vie. Très souvent, c'est un moyen pour eux d'avoir un boulot. Souvent, ce sont des gens en situation irrégulière, étrangers, pas toujours francophones. C'est un moyen pour eux d'avoir un boulot avant de faire autre chose, de rentrer dans la société. Sans doute que c'est pas assez payé et que les plateformes doivent faire un effort si tant est que ce soit pas considéré comme des contrats de travail. Je ne crois pas du tout à cette plainte grandiloquente pour traite d'êtres humains, il faut pas exagérer. Je pense que là,
c'est trop fort.
Bon, je pense que c'est un peu de com de la part de ces associations. Mais interrogeons-nous vraiment, et plus qu'interrogeons-nous, prenons des mesures sur l'impossibilité aujourd'hui qu'est devenu le salariat. Pourquoi est-ce que c'est devenu impossible d'employer des gens en France? Il est vrai que par temps normal, Uber Eats et Deliveroo devraient être des entreprises avec un très grand nombre de salariés qui seraient leurs livreurs. Il se trouve qu'on ne peut plus salarier les gens en France et que c'est pour ça que ces boîtes détournent le système.
Joël.
Ah, Moi, je suis comme mes camarades, je suis consommatrice. Moi, je me fais livrer à peu près une fois par semaine. Donc, ça peut être les courses de la maison ou des fois des repas préparés.
À base de caviar.
À base de, oui, au caviar, saumon, foie gras, très régulièrement.
Champagne.
Et donc, je crois que c'est un métier. Là, on a un vrai besoin. Tu vois, moi, je considère qu'à ce niveau-là, de livraison, c'est qu'il y a un besoin dans la société. Et peut-être qu'ils ont créé le besoin.
Donc, ça a répondu à une demande.
Oui, il y a une vraie demande. Et donc, je considère maintenant
ça
que ces livreurs...
Ça fait urbain hein, aussi.
Oui, aussi. Et je considère donc que ces livreurs sont des gens, un qui délivre un service, mais un vrai service dont on a besoin. Moi, par exemple, je travaille de la maison et je travaille beaucoup et ça me rend service en fait qu'on me livre mes courses. Et je crois qu'il devrait être mieux valorisé. Par contre, je suis comme Charles, je trouve que traite d'êtres humains, ça c'est encore très idéologique, parce que traite d'êtres humains, j'ai regardé, c'est de l'ordre du crime. On n'est plus sur contrat de travail et conditions de travail, on est sur, en fait, ces plateformes sont criminelles. Et en France, le travail, c'est criminel. Travailler, c'est criminel.
Ça va
travailler,
trop loin, en
c'est
fait,
de l'esclavage. Oui, travailler, c'est de l'exploitation, alors que c'est une porte d'entrée. Je suis désolée, moi, vu mes origines... J'ai eu des sans-papiers dans ma famille, enfin qui sont arrivés de Côte d'Ivoire et qui étaient sans-papiers. Et oui, les boulots de porte d'entrée dans un pays quand tu arrives et que t'as pas les papiers, c'est pas reluisant. Mais il faut ces travaux sont indispensables.
Ah bon ?
Oui, ils sont indispensables parce qu'ils sont faciles.
Tu vas pas dire ces travaux.
Oui, pardon.
Sans quoi libre.
Non mais.
Sans quoi libre de le dire.
Alors qu'Edouard Gépré, le ministre de l'Éducation, va bientôt
tu vois,
arriver.
T'as dit que j'ai... Oui, je pense qu'il va. Je vais être licencié là parce qu'il a dit que c'était un rédhibitoire l'orthographe. Non mais voilà c'est une...
pas de l'orthographe exactement.
Oui tout à fait. Mais arrête.
Continue.
Oui mais Joël, tu dis.
Ces travaux sont nécessaires.
C'est nécessaire.
C'est une porte d'entrée souvent pour l'immigration.
Oui.
Les gens qui arrivent sur le territoire.
Oui, complètement.
Oui, mais et on a... D'ailleurs, ça veut dire qu'il y en a qui profitent de ce qui est dénoncé. C'est pas les gens qui travaillent, c'est ceux qui exploitent justement misère, le fait
oui,
que de
mais
toute manière,
quand
c'est,
tu vas mettre
ce sont
bâtons,
des migrants qui
n'ont
pas de papier, donc qui acceptent tout.
Tu dois
quoi.
Exiger que les conditions de travail soient meilleures. Ça, je suis d'accord, que ce soit même requalifié en contrat de travail. Mais par contre, quand tu criminalises l'entreprise,
oui, c'est ridicule.
Il faut arrêter. C'est un peu trop. Moi, je dis que c'est nécessaire déjà pour nous, et c'est aussi nécessaire pour des personnes qui arrivent
alors,
sur le territoire.
Je voudrais qu'on donne la parole à Adèle, parce que Adèle, c'est un ancien restaurateur qui a fait appel, comme beaucoup de restaurants, à ses services Deliveroo ou Uber pour vendre des repas. Adèle, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe.
Ça va? Un
ça
fidèle
va,
des GG,
moi,
bien
en
sûr.
Fait, le cas que j'ai eu, c'est que moi, j'ai commencé dans la livraison à domicile il y a 20 ans avec mes propres livreurs. Puis j'ai basculé en Deliveroo Uber Eats parce que j'avais du mal à trouver des livreurs aussi, tout simplement. Mais en fait, le problème d'Uber Eats Deliveroo, moi, ce que je faisais très souvent, c'est que j'essayais de les débaucher. Les livreurs de chez Uber Eats Deliveroo, c'est-à-dire je leur donnais un CDI, un contrat, un salaire fixe, des meilleures conditions de travail. Et 9 fois sur 10, ils veulent pas.
Pourquoi ?
Parce qu'Uber Eats, on peut se lever quand on veut, on n'a pas de patron au-dessus de sa tête, on se lève quand on veut, on n'a pas de tenue à avoir, on n'a pas d'impératif à avoir. On peut pas avoir tout le beurre et l'argent du beurre. Si on veut, parce que comme vous l'avez dit, donc je disais précédemment, tous les restaurants cherchent. Tous. Il n'y a pas un restaurant qui ne cherche pas. Celui qui veut trouver un CD en restauration, ce sera plongeur. Sauf qu'aujourd'hui en France, là où on parle de traite d'êtres humains pour faire livreur, à l'époque vous aviez Kauter sur votre plateau qui disait que faire de la plonge c'est un métier ingrat. À force de dire que tous les métiers sont pourris, il n'y a plus personne qui va rien faire en fait. Faire plongeur c'est pas ingrat. Il y a des gens qui cherchent du travail, mais quand on leur dit va bosser au McDo, ah non moi j'ai pas envie d'aller travailler au McDo. Le problème d'Uber Eats Deliveroo, c'est pas un revenu. Vous avez dit dans votre sujet de présentation, c'est pas un revenu, c'est un chiffre d'affaires, c'est des autres entrepreneurs.
Oui.
C'est un chiffre d'affaires.
Oui, mais est-ce qu'ils se font pas un peu exploiter quand même, Adèle? Soyons honnêtes.
Ils font. Parce que tout le monde y va. Mais le jour où il y aura plus de livreurs, ils vont réaugmenter leur prix. Ça fonctionne comme ça, les plateformes. Et regardez.
Ouais, mais ils font combien d'heures de vélo par semaine pour avoir, pour se faire 1000 euros par mois?
Non mais ça, à la limite, tu choisis pas.
Parce qu'ils vont pas travailler ailleurs
parce qu'ils n'ont pas de papier,
la plupart.
Ah, dans ce cas-là, comment ils font pour avoir des comptes? Parce qu'auto-entrepreneur, faut déposer sa pièce d'identité, faut ça. Là, par contre, c'est un autre problème, c'est plus judiciaire.
Il y a de la sous-location.
Des gens qui louent leur compte, qui se passent sur Uber Eats.
Oui, c'est
ça. Des gens qui louent leur compte à des faux papiers, et c'est à eux qu'il faut s'en prendre. C'est pas aux plateformes qui donnent du travail. C'est comme les gens qui font VTC. VTC, vous allez bientôt les entendre. Oui, on n'est pas assez payé. Et ben, dans ce cas-là, on prend une licence de taxi. Par contre, ça coûte 100 000, 200 000 euros. C'est pas gratuit. Et on gagnera mieux sa
licence. Ça tombe bien, Adèle.
On peut pas tout avoir, en fait.
Adèle, vous restez parce que vous interpellez un chauffeur VTC, ça tombe bien. Il y a Wilfried qui nous attend 32-16, bonjour, et qui est chauffeur VTC, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon. Alors moi, c'est Wilfried, j'habite à Lyon. Alors c'est vrai que, enfin, par rapport à ce que Adali dit, mais les plateformes aujourd'hui sont de pire en pire.
Vous avez été livreur, vous, Wilfried?
Ouais, moi j'ai été livreur pendant 3 ans et par la suite j'ai arrêté. Je suis passé chauffeur VTC, mais c'est pas mieux en fait.
Ouais. Alors expliquez-nous, livreur, vous touchiez combien pour quelle amplitude horaire?
Deux fois, moi, je pouvais passer toute la journée dehors à travailler pour des petites courses de 2 euros, 3 euros, avec des kilomètres de 5 euros, de 5 kilomètres, de 6 kilomètres, voire parfois 10 kilomètres, avec 2 courses à la fois. La plateforme vous donne 2 courses à la fois en vous disant de faire parfois plus de 10 kilomètres. C'est-à-dire, vous livrez un client par là et vous livrez un client de l'autre côté de Lyon. Et pour au final, toucher quoi? Pour au final, toucher 6 euros ou 7 euros, en fait.
Et sur la semaine, ça vous avez combien ou par mois?
La semaine, parfois, vous pouvez tourner à 300, 350. Mais tout en sachant que derrière ça, il faut faire vos déclarations auprès de l'URSSAF. Et quand vous faites vos déclarations auprès de l'URSSAF aujourd'hui, que ce soit chauffeur livreur ou nous chauffeur VTC, il faut déclarer ce que le client paye à la plateforme. Alors que vous avez une plateforme qui vous prenne une commission de 25 à 45% de commission, elle vous dit d'aller déclarer ce qu'elle elle prend comme commission aussi à l'URSSAF. Donc au bout d'un moment, vous vous en sortez jamais. Vous dites, mais vous avez une plateforme en face de vous qui paye rien, alors qui paye pas d'impôts, et c'est à nous de payer des impôts à leur place.
Et c'est pour ça que vous avez quitté ce job et vous êtes devenu chauffeur VTC.
Voilà, et chauffeur VTC, je compte arrêter aussi parce que aujourd'hui j'ai un crédit sur le dos et je m'en sors pas. J'ai fait un crédit pour prendre un véhicule. Et en plus de ça, je dois déclarer comme je voulais. En fait, la plateforme, elle baisse les prix des chauffeurs, mais par contre, elle, sa commission, elle continue à augmenter.
Ouais. Vous avez vu Adèle? Parce que Adèle trouvait qu'on pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, être indépendant et en même temps, vous voyez quand même, c'est des métiers, il faut travailler énormément pour gagner peu quand même.
Oui, mais nous, on se dit auto-entrepreneur, mais au final, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas auto-entrepreneur.
Non.
Tu es à la merci de cette plateforme-là.
Ils ne proposent pas des CDI.
Tu passes ta vie dehors à travailler, à payer les charges, à payer. En fait, vous
êtes entrepreneur. Vous décrivez la vie d'entrepreneur. Wilfried décrit la vie d'un entrepreneur.
Oui, mais c'est pas parce que.
Tu ne peux pas choper un CDI quand tu n'as pas de papier. T'es également. En fait, ce qui se passe.
Si, par exemple, il a des papiers.
C'est pas ça, Wilfried.
Oui, mais la grande majorité, enfin, quand tu regardes, en toute honnêteté, moi, la plupart des gens qui viennent me livrer, ils parlent pas un mot de français. Donc, en fait, ces gens-là louent un compte bancaire à une personne qui est française. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Ces gens-là, il faut les attraper. Mais du coup, ils ne peuvent pas, ils ont pas la possibilité d'avoir un CDI pour un travail normal. Donc, on peut quand même se poser une question déontologique de Uber, Eats et Deliveroo ont pleinement conscience des gens qu'ils embauchent. Et ils en profitent, et c'est là que le problème se fait.
Oui, mais moi, en tant que patron, si j'embauche quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est moi qui ai des problèmes auprès de la police. Voilà, pourquoi ils n'auraient pas les mêmes problèmes?
Ah, mais ça,
et on va arrêter là. Merci Adèle, merci Wilfried. On voit bien que c'est pas évident. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que ce sont les nouveaux esclaves, les livreurs à vélo? Eh bien, vous dites oui totalement à 79,2%. Non, pas du tout, 20,8%. Donc, vous êtes quand même plutôt du côté de ces associations. Dans un instant, comme prévu, nous allons nous intéresser à cette opération Plante ton slip, organisée à Nantes et qui consiste à enterrer des sous-vêtements pour analyser les sols. Oui, c'est une entreprise écologique. Hein. C'est d'ailleurs l'Agence de la transition écologique qui finance tout ça avec la municipalité de Nantes. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Il y a un vrai problème dans les Grandes Gueules ce matin sur RMC Story, c'est Charles n'arrête pas d'embêter Joël Dagostieri.
Alors, il a remis sa montre en 2026 parce qu'elle était encore en 2025. Il est cru sur ma feuille.
Il n'arrête pas de te taquiner.
Je sais pas.
Alors, tu sais qu'il y a
J'étais un élève dissipé.
Ah ben justement, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui vient d'arriver. Et je peux te dire que, Charles, tu vas redoubler.
Je m'emmerdais en cours, les profs étaient mauvais.
Tu vas être collé, Charles.
Les profs, salut. Les mauvais profs.
Est-ce que toi, tu étais meilleur que les profs, même.
Qui étaient tout le temps absents. Non, j'avais une moyenne mauvaise. Je travaillais pas. Ouais. Ça m'intéressait pas.
Moi, j'ai eu un parcours.
J'étais dans le fond de la classe, près du radiateur.
Qui était bonne à l'école ou...
Ça dépend.
Laura, non.
Moi, j'étais bonne en écho. Et c'est tout.
Ah bon, seulement l'écho.
Ouais, le reste, je me faisais
chier. Et toi, Joël?
Moi, j'étais bonne parce que j'étais obligée.
Toi, mais... tu travaillais, t'étais sérieuse.
Ouais, j'étais sérieuse, je travaillais, mais ça dépend aussi. Il y a des années, j'avais pas envie.
Ah bon, c'était à la carte.
Non, moi, j'avais vraiment envie. C'était le troisième trimestre.
Alors quelle est votre matière préférée? Toi, l'éco, toi?
Non, ma matière préférée, c'est l'histoire.
Ouais, moi aussi, j'étais histoire, français, j'aimais bien. En fait, tout,
après, et le sport aussi.
Le bloc, non, pas le sport, non.
Charles?
Aucune.
Aucune matière. D'accord.
Je vais tester tout.
Bon, Edouard Geffray vous écoute, il sera avec nous dans un instant. Mais avant ça, nous partons à Nantes.
On va passer les filles.
Amis nantaises, préparez vos slips, vos caleçons, vos sous-vêtements, car la ville va planter des slips dans des parcs au service de la biodiversité. Non, ce n'est pas un gag. La ville de Nantes lance l'opération Plante ton slip. Il s'agit donc, et c'est inspiré d'ailleurs par l'Agence de la transition écologique, d'expérimenter d'une façon ludique la façon dont on peut trouver dans nos sols la richesse biologique. Donc on va enterrer des sous-vêtements dans des sols pour analyser ce qui va se passer. Les sous-vêtements participants seront exposés au mois de septembre. En gros, les plus beaux slips seront exposés. Donc si vous avez des caleçons, des culottes en coton, vous savez plus quoi en faire, eh bien participez à Nantes à cette opération. Alors c'est une opération bien sûr qui sollicite l'argent public. Est-ce que vraiment on en a besoin? Est-ce que vous aimeriez être nantais là aujourd'hui pour participer à ça, Laura?
Alors, deux questions. Combien ça coûte? Et quel est l'intérêt? Que tu fasses une exposition pour sensibiliser les enfants. Voilà, un sac plastique quand il est jeté par la fenêtre de la voiture. Et dans 15 ans, voilà dans quel état il est. Des choses qui sensibilisent. Ok, pourquoi pas? Mais là, c'est quoi? On va s'extasier devant de la moisissure sur ton slip?
On va planter des slips dans différents points du parc potager, dans des jardins partagés ou familiaux, au sein de paysages nourriciers. Et les premières cueillettes de sous-vêtements sont prévues à partir du mois de juin.
Ça répond pas à la question, hein?
Oui.
À quel est l'intérêt? C'est quoi le but c'est quoi le but de l'expérience en fait? À quoi ça sert? Enfin, j'estime que les municipalités actuelles ont quand même des problèmes beaucoup plus graves à gérer. On voit des scandales avec le périscolaire qui fleurissent de partout. Et le gars, il s'est dit, je vais planter des slips et après on va compter le nombre de tâches qu'il y a sur mon slip. On en est là en fait. C'est ça la DA des écolos maintenant?
Ben oui, mais c'est une façon de sensibiliser la population et tous les sous-vêtements plantés.
Mais les sensibiliser à quoi? À l'état d'un slip dans la terre?
Seront exposés. Non, mais
je n'ai toujours pas compris.
En fait, c'est pour parce que j'ai vu que c'était une étude.
Micro, s'il te plaît, Joanne.
C'était une étude qui a été menée. Donc, si tu plantes ton slip en coton, donc il faut du vrai coton. Attention, les gens qui ont du slip en synthétique et tout, etc., ça sert à rien. Il faut du vrai coton. Et donc, le temps, tu peux savoir si le sol est pollué. Au temps où il se dégrade.
Enfin, voilà. Exactement.
Donc voilà, donc là c'est pour amuser les petits Nantais.
C'est l'ADEME qui lance ça, vous savez.
Mais c'est lui l'ADEME, celle qui coûte plusieurs milliards d'euros. Dit combien de fois il fallait porter son jean.
Alors justement, ce qui est drôle, c'est que l'ADEME, donc l'agence,
combien de fois on porte
l'agence
slip,
de la transition écologique, lance un message. Attention, un slip enterré ne doit jamais être laissé dans la terre. N'oubliez pas de le déplanter. Ah oui, c'est vrai.
Ils sont payés.
C'est vrai,
ces gens sont payés avec les 51% qu'on nous prend. Je peux
plus.
Année,
non mais je
revenus.
Peux plus. Je peux plus.
Donc voilà.
Non mais après on se demande pourquoi on est énervé.
Je veux dire. allez vous balader. Sortez non, à la
surtout,
gare de Nantes.
Attention de pas oublier son caleçon dans la terre parce que parfois c'est vrai.
Des fois que tout.
Mais oui parce que. Mais pas attention et j'ai oublié mon slip dans la terre. Alors.
Par principe je suis contre la peine de mort. Mais j'avoue que certains faits.
Attention, à la modération.
Me laisse songeur quant à l'opportunité de remettre dans le débat. Non, mais de remettre dans le débat. Voilà, un référendum. Est-ce qu'on réintroduit pas la peine de mort?
Non.
Là, un crime comme celui-là.
Humour.
Voilà. Donc, à minima,
oui,
je demande l'incarcération immédiate. De Madame Johanna Roland, la maire de Nantes, qui tolère ce truc.
Qui participe.
D'une débilité sans nom. Je demande aussi l'incarcération de Monsieur Wasserman, qui est le président directeur général de l'ADEME, Sylvain Wasserman, ancien député. Monsieur Wasserman, si vous nous écoutez, je veux vous voir derrière les barreaux, hein, après une idée comme ça. Et je demande qu'il soit incarcéré en compagnie des innombrables salariés de l'ADEME. Parce qu'il faut savoir que on a un ministère de l'écologie qui est en charge lui aussi de la transition énergétique.
Avec des actions chez Airbus.
Le ministre, Madame Barbu, elle n'a pas que des actions chez Total, Madame Barbu.
J'espère.
Ça me rassure qu'elle ait des actions d'ailleurs.
Pas chez Total, chez Airbus.
Je sais plus, mais chez Airbus, ça me rassure. Je voudrais que Patrick Pouyanné, moi, soit ministre de l'écologie. Mais bon, Madame Barbu, elle a un chauffeur, un secrétariat, un cabinet, des services, un déjeuner. On lui paye. Tous les jours, elle fait un grand déjeuner au ministère de l'écologie, qui est un très beau bâtiment qui avait été d'ailleurs défoncé par les Gilets jaunes à l'époque, boulevard Saint-Germain. Bon, et ben en plus de Madame Barbu et de tout ce staff invraisemblable qui nous coûte déjà très cher, vous avez des agences en plus. Et donc, il y a notamment donc l'ADEME. Alors, l'organigramme...
parce qu'on va aller à Nantes.
Voilà,
il y a
j'arrête là, mais l'organigramme de l'ADEME, j'invite nos auditeurs à le télécharger, il est sur Internet. Je ne sais pas combien il y a de gens qui travaillent là-dedans, mais ils sont très
nombreux.
Oui,
c'est entre 2 et 4 milliards. Voilà.
Moi, je vous dis, moi, président de
le budget de l'ADEME, slip, hein.
Demain, un de mes premiers décrets portera suppression immédiate de l'ADEME et mise à pied de l'ensemble de ses salariés.
Voilà. Yann est avec nous, il est nantais. Bonjour Yann.
Bonjour les GG. Bon, écoutez, c'est déjà un plaisir de vous avoir. Hein.
Bon, est-ce que votre slip est prêt?
Oui, non, mais attendez, mon slip est prêt, mais ça, on est dans du ridicule, mais c'est du grand n'importe quoi, en fait. Alors déjà qu'elle a été élue en ayant menti préalablement au Nantais, mais il y a autre chose à faire. Il y a l'argent, on peut la mettre autre part. Hein. C'est vrai qu'à Nantes, tout va bien, la sécurité, il lui fait bon vivre. Enfin, non, mais sincèrement, de qui on se moque?
Pas de vous, en l'occurrence, et de vos impôts.
Ouais, non, mais vous savez, les Nantais sont en train de se plaindre. Là, ça commence à gronder, mais ils ont été votés pour elle.
Ouais,
donc, enfin, voilà, j'arrive plus à comprendre. Totalement désabusé, en fait. Hein, sincèrement, c'est de la bouffonnerie, c'est n'importe quoi. De toute façon, je vais vous dire, à Nantes, pendant 7 ans, puisque comme ça va être 7 ans à cause des élections présidentielles, à Nantes, il va rien se passer, mis à part des choses ridicules comme ça, puisque de toute façon, elle n'a pas la majorité. LFI est dans l'opposition, les écolos sont dans l'opposition, Chambard est dans l'opposition, il y a du RN dans
oui, mais bon, là, au-delà des affaires de Nantes, est-ce que c'est pas une façon ludique de sensibiliser la parole? Non,
j'aurais aimé être à la réunion. Être à la réunion de quand ils ont réfléchi.
Yann, je voudrais qu'on écoute Bruno également. Je comprends votre énervement, Yann. Bruno, bonjour. Alors lui, il n'est pas à Nantes, il a du recul, du Vaucluse, hein, Bruno. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour.
Est-ce que vous aimeriez avoir une opération plante ton slip chez vous?
Non, mais sérieux, on part complètement en live dans ce pays. On nous demande de nous serrer la ceinture. Hein. Que le carburant monte, etc. Et on va donner de l'argent public pour aller planter des slips. Vous savez quoi? Je vais demander au maire de mon village, à Velleron, que l'on plante, qu'on soit financé par l'argent public pour planter des verres de pastis une fois qu'on a bu le pastis. Dans 10 ans, on viendra déterrer les verres, voir ce que ça va donner. Hein? Non, mais écoutez-moi, ces écolos, ils sont complètement stoges maintenant. Il faut les mettre dans un parc, vous leur donnez à manger le matin, à manger le soir, et c'est terminé. Il y en aura les cacahuètes. C'est un truc de fou, mais on marche sur la tête. On donne des milliards à droite, à gauche, à l'Ukraine, à la Russie, à qui tu veux.
C'est très loin, là.
Voilà. Ouais, bon, mais c'est pareil. Et puis là, on va enterrer des slips. Non, mais sérieux, comme le disait l'auditeur précédent, il n'y a rien d'autre à faire à Nantes là-bas. Tous les jours, il y a un truc sur Nantes à la télé, sur BFM, sur CNews. Tous les jours, il n'y a pas autre chose que d'aller planter des slips. Sérieux.
Merci Bruno, on a compris que vous n'étiez pas favorable à cette opération plante ton slip.
Non mais tu peux imaginer juste 2 secondes, conseil municipal. Bon les gars, j'ai une
idée. Terminé Laura, on se retrouve dans un instant avec le ministre de l'Éducation nationale face au GG, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.